Matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
Esprit libre avec le journaliste et écrivain François-Olivier Gisbert. Bonjour
François. Bonjour François Geffrier.
Il y aura donc une grève à la SNCF ce week-end. Les chefs de bord maintiennent la pression. Comme à chaque fois qu'une grève tombe pendant les vacances, ça fait scandale. Comment observez-vous cette affaire ?
Ça fait du bien d'entendre Gabriel Attal qui dire que si la grève est un droit, le travail est un devoir. Répétez, le travail est un devoir. C'était dit d'ailleurs à propos des arrêts de travail qui sont prévus ce week-end. Et quand il y a la grève à la SNCF, on sait ce que ça veut dire, François Geffrier. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de train ?
Non ! Ça veut dire que c'est les vacances ! C'est toujours avant les vacances !
Parfois c'est à la rentrée scolaire.
Mais c'est à se demander si les syndicats CGT et autres de la SNCF ne sont pas finalement d'accord avec Gabriel Attal, comme s'ils pensaient eux aussi que le travail est un devoir, comme dit le Premier ministre, et qu'ils ne voulaient donc, ils veulent donc pas que les Français partent en vacances. Logique, non ? D'ailleurs, les Français peuvent déjà prévoir des grèves, je le dis tout à l'heure, pour ceux qui ne le savent pas, pour les vacances de Pâques, les prochaines grandes vacances d'été, ainsi va la France.
Le fait que la SNCF privilégie les TGV qui desservent les destinations neige, est-ce que c'est choquant ou pas ?
Bon, non, c'est les vacances.
Oui, mais il y a des gens qui peuvent partir en vacances en Alsace, à Biarritz ou à Brest.
Oui, mais enfin, il y a quand même des TGV. On s'y prend un petit peu à l'avance. C'est vrai qu'il ne faut pas s'y prendre le jour même, comme vous.
Bon, voilà.
Quand on s'y prend un petit peu à l'avance, je crois que ça va à peu près.
Bon, il y a quand même des TGV supprimés. Bref, autre sujet qui vous inspire, François-Olivier Gisbert, le Conseil d'État, qui réclame à l'ARCOM, qu'on appelait autrefois le CSA, c'est-à-dire le gendarme de l'audiovisuel, de mieux contrôler la chaîne d'info CNews. Ça vous fait réagir.
Ouais, c'est une décision absolument incroyable. Le Conseil d'État, faut pas oublier, c'est la plus haute juridiction administrative. Et l'ARCOM, vous l'avez dit, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Bon. Alors, les soi-disant sages du Conseil d'État, ils enjoignent l'ARCOM d'exercer, je cite, un contrôle plus strict du respect du pluralisme par la chaîne d'info de Bolloré, en fait, c'est ça. Et cette décision, je pense qu'elle va rentrer dans les annales. C'est une décision qui a été prise à la suite d'une action en justice de Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières, qui est par ailleurs, d'ailleurs, assez proche de Macron, puisque Macron l'a nommé comme délégué général des États généraux du droit à l'information. C'est intéressant, c'est un petit détail comme ça qui vaut la peine d'être signalé. Et moi, je sais pas quoi dire face à ce type de décision du Conseil d'État, parce qu'on ne sait pas si on est dans un processus de soviétisation de l'information, ou bien dans le monde de George Orwell, dans son livre d'anticipation, vous avez lu, qui est un chef-d'œuvre absolu, 1984, qui annonce l'arrivée d'une sorte d'État policier. Et puis, on se demande aussi si on n'est pas tout simplement chez les fous. Le pluralisme édicte donc nos sages, prétendus sages du Conseil d'État, ne se limite pas, je cite, au temps de parole des personnalités politiques, fin de citation. Bah oui, encore heureux, puisque en 2022, le temps de parole de la NUPES avait atteint jusqu'à 70% sur certaines chaînes, pendant la campagne des législatives. Je dirais pas sur certaines chaînes, sur beaucoup, beaucoup de chaînes, en fait, en vérité. Et personne n'a moufté. Ni l'ARCOM, ni le Conseil d'État.
Pourtant, il y a des chronomètres qui tournent en permanence, surtout pendant les campagnes.
Ben oui, moi j'ai travaillé dans le service public, et je peux vous dire qu'on était embêtés, en tout cas.
C'est à la seconde près.
Là, visiblement, personne n'a été embêté, parce que, sans doute parce que c'était l'extrême-gauche. Je pense que s'il y avait été la droite ou l'extrême-droite, les colonnes du temple auraient été secouées. Mais là, c'est passé quasiment comme une lettre à la poste. Or, c'était quand même c'est une sorte de déni de démocratie. C'est-à-dire 70% de temps de parole.
Mais sur quelle chaîne?
Sur toutes les chaînes, on va pas les citer toutes, elles sont toutes là. Ça va de les chaînes d'information, les chaînes généralistes, enfin, vous regardiez les chiffres, les radios, c'était juste absolument incroyable. Il y en a quelques-uns qui se tenaient bien, dont, bizarrement d'ailleurs, CNews et Europe 1. Ça, j'avais remarqué, le temps de parole était à peu près tenu. Alors, le Conseil d'État, donc, il a décidé que l'indépendance de l'information s'appréciait, et écoutez, parce que ça vaut la peine quand même, non pas sur la base des chiffres, justement, du temps de parole des personnalités politiques, mais à l'échelle, alors je cite, du fonctionnement de la chaîne. Hein, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Mmh. À l'échelle du fonctionnement de la chaîne. Je crois que c'est un jargon, on couvre toutes les portes, y compris celle de l'inquisition, de l'arbitraire, de la censure pure et simple. C'est-à-dire, on va quoi ? On va demander, on va faire des enquêtes sur tous les animateurs ? On va faire des enquêtes sur les journalistes ? On va farfouiller dans leurs affaires pour voir.
Il y a une granularité des opinions qui est plus fine que juste les partis, quoi.
C'est complètement dingue. Mmh. Et pendant ce temps-là, on laissera filer le temps de parole des politiques, parce que visiblement, en tout cas, il y a la jurisprudence de 2022.
Alors, visiblement, c'était précisément sur les 15 premiers jours du mois de mai. Donc, on était juste après la présidentielle. Et on n'était pas encore dans la campagne officielle. Pas encore dans la campagne officielle des législatives.
J'en ai parlé beaucoup à l'époque. J'étais absolument scandalisé. J'ai l'impression que j'étais le seul.
Ça avait fait quelques articles à l'époque. On était à 50%, effectivement.
On n'était pas beaucoup à le dire. C'était dingue.
Il y avait un sujet aussi d'actualité qui était que la LFI, la NUP, était en train de constituer cette coalition et qui fait que pendant ce temps-là, les autres parlaient moins.
Il y a une partie des rédactions dans chacune de ces chaînes qui était quand même très favorable à l'extrême gauche.
Peut-être que les autres ont fait campagne moins efficacement.
Ça, c'est du baratin. Ça, vous savez très bien. Vous le dites.
Non, mais en attendant de suivre celui qui fait plus de bruit. Et vous le dites aussi, vous êtes journaliste.
Vous savez très bien que vous n'y croyez pas vous-même.
Bien sûr que si. On suit souvent. Nous, les journalistes, sommes parfois un petit peu moutonniers. On attend de suivre celui qui va faire le plus de bruit. À ce moment-là, il y avait toute cette histoire de l'alliance de gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui était en train de rassembler autour de lui. Et donc, on ne parlait que de c'est vrai. Pas encore. On n'était pas encore sur la campagne officielle des législatives. On regardera les dates.
La présidentielle, il y a une campagne. Et on regarde bien les chiffres de mai et de juin. Ils sont absolument terrifiants. Et je veux dire, c'est pas normal. C'est absolument anormal. Et tout le monde a laissé faire. Et là, aujourd'hui... Non, mais je pense que, si vous voulez, le problème dans cette affaire, c'est qu'on s'habitue. C'est-à-dire que, voilà, tout ça n'est pas grave. D'ailleurs, les réactions sont assez molles. Alors que c'est quand même, comment dire, c'est un problème de démocratie. Hein, on n'est pas en France, on n'est pas au Venezuela, on n'est pas dans la Russie de Poutine, on n'est pas en Corée du Nord. La France est une démocratie et la démocratie c'est un combat. C'est un combat de tous les jours, elle n'est pas acquise la démocratie. Il faut donc se battre tous les jours pour la démocratie. Et là, moi j'aimerais bien voir quand même des voix se lever. Parce que c'est pas un problème de chaîne de droite ou de chaîne de gauche. Parce que vous savez très bien, demain, s'il y a pouvoir de droite, peut-être que ce sont les chaînes de gauche qui prendront la figure. Mmh. C'est juste un problème d'équilibre. Moi, ce que j'aime, de toute façon, c'est le pluralisme des chaînes. J'aime choisir. Et puis, je vais vous dire, figurez-vous, moi, j'aime bien aussi écouter les chaînes de gauche. J'ai jamais été gêné. D'ailleurs, je lis aussi la presse de gauche. Parce que c'est ça aussi, en tout cas, dans notre métier, c'est ce qu'on fait.
Bien sûr.
On lit les uns, on lit les autres. Et puis, voilà.
C'est le pluralisme
chacun
qui fait qu'à la fin, on s'en
voilà.
sort.
Voilà. Chacun a sa sensibilité, et puis c'est tout à fait normal. Là, on a quand même un système qui est mis en route par le Conseil d'État, et je veux dire, ça pose le problème du Conseil d'État, c'est-à-dire...
Pour vous, cette affaire est symptomatique d'un problème plus large en ce moment avec le Conseil d'État.
Bah, c'est-à-dire...
Qui a multiplié les arrêts un peu étonnants.
Si vous voulez, c'est Thucydide, l'historien grec, qui disait que toute institution, toute personne a toujours tendance à aller jusqu'au bout de son pouvoir. Bon, aujourd'hui, le pouvoir est faible. Hein, le pouvoir politique, il est faible. Il y a ce qu'on appelle un délitement général de l'autorité. Ça commence par le haut et ça finit par le bas. Et là, dans ces circonstances, il est clair que le Conseil d'État, d'ailleurs, comme les magistrats, la magistrature en général, avance des pions. Et donc, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est le spectre du gouvernement. Déjà, c'est une vieille formule d'ailleurs qui a été inventée par un vieux juriste français il y a à peu près un siècle. Le gouvernement des juges, ça veut dire effectivement les juges qui n'appliquent plus la loi, mais qui l'interprètent et qui n'en font qu'à leur tête. Exemple d'ailleurs la décision du Conseil constitutionnel concernant
la loi immigration,
puisqu'il s'appuie sur l'article 45 qui dit exactement le contraire de ce que dit le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, il dit bah oui, on peut. Et d'ailleurs, c'est une loi, c'est une.
Ils ont écarté beaucoup d'articles en parlant de cavaliers législatifs. C'est-à-dire
beaucoup
d'articles n'étaient pas en rapport avec le propos initial de la loi.
Eh ben oui, c'est l'article 45 dit tout simplement que les amendements sont permis, autorisés à partir du moment où ils ont un lien, même indirect, avec le texte déposé ou soumis. Ça, c'est c'est exactement l'article 45 de la Constitution. Donc, là, je suis désolé, il y a un petit problème. C'est-à-dire, et quand on regarde bien, le Conseil d'État, il a sans doute des choses à se faire pardonner, c'est vrai. Aujourd'hui, il est woke, mais enfin, n'oubliez pas, dans les années 40, il était un peu collabo, hein. On le sait tous. C'était pas terrible. Et puis, sous Giscard, ils ont commencé à redresser la tête, parce que De Gaulle les aimait pas beaucoup, et les sages du Palais Royal, comme on dit, ils ont commencé à redresser la tête, et n'oubliez pas que ce sont eux qui ont maintenu le regroupement familial que Giscard a essayé de supprimer avec Barre, et avant de s'arroger la politique de l'immigration avec le succès que l'on sait, hein. Et je veux dire, tous les jours, il y a des décisions qui montrent que voilà, c'est eux qui décident de la politique de l'immigration, avec évidemment la Cour de justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Par exemple, il y a quelques jours, hein, il y a très peu de temps, je crois que c'était le 2 février, le Conseil d'État limitait les refus d'entrée sur le territoire. En clair, la France ne peut plus désormais refouler vers l'Italie, comme ça se faisait, d'ailleurs avec l'accord tacite de Giorgia Meloni. La France ne peut plus refouler vers l'Italie les immigrés qu'elle ne veut plus voir sur son territoire. Merci le Conseil d'État. Puis, je sais pas, il y a des décisions absolument lunaires, enfin, on les connaît pas forcément, mais des décisions absolument lunaires, par exemple, la condamnation de l'État à propos de la pollution de l'air, parce qu'il ferait pas assez, qui a permis au Conseil d'État de condamner donc l'État à verser 20 millions à des associations, on peut dire gaucho-écologistes, parce que c'était ça en gros, subventionner en fait des associations gaucho-écologistes. C'est l'argent du contribuable, bien entendu. Pourquoi le Conseil d'État s'attaque-t-il aux médias, hein, je crois que c'est ça un peu la question. Sans doute pour faire plaisir au pouvoir, hein, parce qu'il a mettre dans ses petits papiers une forme d'endogamie. Il est toujours été,
il n'y a pas de patron du Conseil d'État, c'est le Premier ministre officiellement. Oui. Il y a un vice-président qui est évidemment nommé.
Qui anime, et puis c'est effectivement, vous avez raison. Bon. Et, cette affaire-là, je pense que c'est pas fini. Ça fait que commencer. Je pense que notre démocratie, comme dans tous les pays, d'Occident aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée, par exemple, aux États-Unis par Donald Trump et ses soutiens. Et elle est menacée aujourd'hui en France par le Conseil d'État et par ses soutiens.
Alors, François-Olivier Gisbert, hier, on n'a pas vu Nicolas Sarkozy à l'hommage national à Robert Badinter, et pour cause, quelques instants après la fin du discours d'Emmanuel Macron, il était, Nicolas Sarkozy, condamné en appel dans l'affaire Big Malion, reconnu coupable dans le dépassement du plafond légal des dépenses autorisées lors des campagnes présidentielles, c'était pour celle de 2012. 1 an de prison, 6 mois avec sursis, pas d'incarcération. Il s'est pourvu en cassation. Quel est votre commentaire, France?
Cette histoire est amusante parce que bon, ça commence à baisser. C'est-à-dire, j'imagine, après cette pourvue en cassation, si ça va en cassation, peut-être carrément, il n'y aura plus rien. Peut-être du sursis.
Si ça casse, c'est qu'ensuite on revient en cours d'appel.
Ça diminue, la peine diminue un peu à chaque fois. Il y a peut-être une gêne chez les juges. Et puis, quand on parlait justement tout à l'heure de gouvernement des juges, leur acharnement contre Sarkozy est quand même un cas d'école. Parce que, vous regardez bien, il a été condamné déjà à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des écoutes dites Paul Bismuth, et tous les amis qui étaient sur place pendant le procès m'ont dit quand même que c'était quelque chose de très bizarre, où on entendait des extraits de conversations téléphoniques de 3 secondes ou 4 secondes, surtout il fallait pas les contextualiser pour aller dans le sens évidemment que voulaient les juges. Et puis il y a évidemment, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est absolument extraordinaire, c'est que Nicolas Sarkozy va comparaître en 2025 à propos de cette affaire, après une enquête assez foireuse, il faut dire, de Mediapart et du Parquet National Financier, il va comparaître à propos des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. On est quoi ? On est presque 20 ans après. 20 ans après. Bon, on attend la suite.
Autre affaire politico-judiciaire, celle des assistants parlementaires du Modem. Le parquet a fait appel de la relaxe de François Bayrou. Là aussi, vous y voyez une décision discutable.
Non, oui, peut-être d'ailleurs. Enfin, non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'y vois peut-être la main de quelqu'un. Bayrou donc était relaxé dans une affaire un peu compliquée, hein, des assistants parlementaires européens du
D'autres
Modem
ont été condamnés,
il parlait de détournement de fonds, etc. Bon, Le parquet de Paris a interjeté appel, et c'est quand même un peu bizarre, parce que le parquet, c'est le pouvoir, et Bayrou, c'est le pouvoir en principe, hein, c'est le pouvoir politique. Là, c'est,
il est haut commissaire,
le gouvernement des juges, le parquet de Paris, le parquet en général d'ailleurs, il doit échapper au gouvernement des juges.
C'est, et normalement, il n'y a plus d'instruction individuelle au parquet.
Il y a un fil direct avec le pouvoir. Et donc, cette décision intervient juste après que Bayrou s'est embrouillé avec Macron et Attal. Je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Est-ce que ce serait une vengeance de l'exécutif contre le maire de Pau? Le maire de Pau, où il fait d'ailleurs aujourd'hui, je crois, 24 degrés. Certains annoncent aussi 26 degrés. Non, mais ça n'a pas le rapport. C'est parce que c'est une ville absolument magnifique. Oui. Et Pau, avec 24 ou 26 degrés, ça doit être encore plus beau que d'habitude.
Et vous savez quoi? On va se réconcilier. Mon cher Franz-Olivier Gisbert, avec deux titres inédits de Johnny Hallyday qui sont parus ce matin. Ils sont diffusés dès aujourd'hui. On les a redécouverts en quelque sorte. Ils ont été écrits par Philippe Labro au début des années 70. On les a retrouvés, paraît-il, alors souvent un peu de storytelling à Londres, à l'Olympic Sound Studio. On va écouter d'abord la chanson Reste.
Non, 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 reste. Non, non, ne pars pas. Non, 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 reste. Mon cœur n'est que toi.
Pour Reste, un autre extrait, une autre chanson, ça s'appelle Waterloo. Ce petit Waterloo,
très bien,
version
je
de Johnny
Hallyday. La deuxième.
Effectivement, Waterloo plutôt que Reste. En tout cas, ça sort aujourd'hui. Et ça sort dans une réédition du disque Flagrant Délit qui, lui, était sorti en 1971. Ça nous rajeunit, mon cher Franz-Olivier Gisbert. Merci beaucoup.
On aime toujours Johnny.
D'avoir été ce matin dans Esprit Libre.
Il fallait le voir en spectacle. Hein.
Oui, j'y vais tout de suite. Je prends des places.
On en parlait différemment quand on l'a vu en spectacle.
Merci beaucoup, Franz. Il est 8h50.